France Inter. Karine Bécard, Jérôme Cadet, le 6-9 du week-end.
Bonjour Adrien Taquet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Il y a 6 mois, vous avez demandé à un étudiant en droit, Gauthier Arnaud Melchior, lui-même passé par l'aide sociale à l'enfance, de rédiger un rapport sur les enfants placés. Ils sont 300 000 dans notre pays. Il vous remet ce rapport aujourd'hui. Sur cette question, vous avez déjà déposé un projet de loi qui sera bientôt examiné au Sénat. Alors que comptez-vous apprendre dans ce rapport que vous ne savez déjà ?
Je compte apprendre des choses qu'effectivement nous adultes, nous experts, nous politiques, nous qui ne sommes pas auteurs d'enfants justement, ne percevons pas et ne pouvons pas percevoir. Et je crois que c'est ça la grande force de ce rapport.
Il fallait pas le faire avant de rédiger le projet de loi ?
Ah bah écoutez, on a fait tout ça de façon concomitante, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est toute l'intérêt de la navette parlementaire que d'avoir été examiné à l'Assemblée nationale début juillet et d'arriver en examen au Sénat courant décembre, mi-décembre, le 15 décembre très précisément. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible, effectivement, vous avez raison, que nous intégrions dans ce projet de loi, par amendement gouvernemental, un certain nombre de choses qui seraient dans ce rapport. Non, ce rapport, il dit 3 choses essentielles, moi je trouve, c'est que il y a des petites choses très anodines, qui peuvent paraître très anodines, qui sont en réalité essentielles, fondamentales pour ces enfants dont on sait que il y a des problèmes de lien d'attachement, de considération, de confiance en soi, et qu'il y a plein de petites choses du très quotidien qui ont en réalité une grande importance, et qu'ils ont besoin que l'on prenne soin d'eux à travers la lecture d'une histoire le soir, à travers un câlin, à travers le fait de permettre à un enfant d'aller peut-être davantage chez le coiffeur que ce qu'on lui permet en règle générale, parce que ça renvoie à l'image qu'il renvoie de lui-même, mais donc à l'image qu'il a aussi de lui-même.
Il parle aussi des violences.
Alors,
Il a rencontré 1500 enfants.
Absolument.
Gauthier Arnaud Melchior, et certains lui ont parlé des violences qu'ils subissent en foyer ou en famille. Il a d'ailleurs saisi votre cabinet à l'occasion de ce Tour de France. Et certains faits ont été découverts ou dévoilés à ce moment-là.
Absolument, il y a eu un fait effectivement qui lui a été révélé et il m'en a fait part. Et dans ce cas, j'ai fait ce que la loi m'impose de faire, c'est-à-dire que j'ai, au nom de le fameux article 40, j'ai saisi le procureur de la République. Mais au-delà de ça, je vais revenir sur la violence, il y a un deuxième élément important, si vous m'y autorisez, c'est la question de la stigmatisation de ces enfants. Moi, je suis persuadé, depuis que j'ai pris mes fonctions, que ce que ces enfants souhaitent, c'est d'être des enfants comme les autres. Et ce qu'on leur doit, c'est qu'ils soient des enfants comme les autres. Ça paraît très très simple, et c'est à la fois très compliqué. Et en fait, ces enfants ont encore cette image des gamins, des enfants de la DAS même, hein. Certains l'expriment comme ça, d'ailleurs, alors que la DAS n'existe plus depuis 30 ans, mais dans notre inconscient collectif, c'est quand même ça encore qui existe. Voilà, beaucoup à l'école, donc là, il y a un boulot à faire, et ça, c'est pas par la loi que ça passe, hein. C'est dans les pratiques, c'est le discours, le dialogue qu'on doit avoir avec l'éducation nationale.
Le changement de regard.
La posture, changement de regard, changement de posture, et puis aussi des choses, voilà, quand on va tous à l'école ensemble dans la même camionnette blanche, où il y a marqué aide sociale enfance, enfin, c'est pas marqué, mais enfin bon, ça aussi, ça
c'est
continue la stigmatisation, voilà.
Alors, vous parlez de toutes ces choses, que vous disiez anodines, mais qui
ne le sont pas
tant que ça, mais il y a aussi des questions très concrètes qui se posent. Est-ce que vous allez, par exemple, notamment intégrer à votre projet de loi, le fait de rendre obligatoire la présence d'un avocat aux côtés de chaque enfant placé ? Visiblement, c'est une mesure qui est beaucoup demandée pour aider ces enfants à mieux gérer leurs droits. Est-ce que ça, c'est un truc que vous allez faire ?
Alors, c'est une question qui a fait l'objet déjà de beaucoup de débats à l'Assemblée nationale en première lecture, qui fera l'objet encore au Sénat.
Et donc
on a déjà élargi la possibilité pour le juge notamment de pouvoir demander à un avocat de représenter l'enfant. Il faut bien comprendre que en matière éducative, le juge a un rôle particulier. Le magistère du juge est différent que dans les autres procès. Il n'est pas là pour décider entre deux parties. Il est là pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le juge qui est le garant de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et par exemple, quand vous échangez avec certains juges, tous ne sont pas non plus d'accord, hein, pour être totalement honnête. Mais par exemple, avec le juge Édouard Durand, que vous connaissez bien, qui est à la tête, qui co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, que je lui ai confiée, lui pense que la représentation systématique de l'enfant par un avocat n'est pas une bonne chose.
Et donc le gouvernement suivra ce juge ou pas ?
Il y a plein de raisons. Mais le gouvernement a élargi la possibilité de recourir à un avocat, que le juge, notamment s'il sent qu'il y a besoin qu'un avocat soit présent, qu'il ait la capacité de le faire. Et puis on est en train de travailler pour le Sénat, à ce que la prise en compte de la parole de l'enfant soient encore mieux assurées, parce que c'est ça dont il s'agit. Mais il faut bien se dire que lorsqu'un avocat, enfin, prise en considération de la parole de l'avocat, c'est pas la parole de l'enfant. Ce que dit l'avocat, ce n'est pas la
bien
parole
sûr.
De l'enfant. Hein. Non, mais c'est des choses très importantes.
Il y a une autre
mais
mesure.
On travaille en tout cas à mieux prendre en compte la parole de l'enfant, parce que je pense que c'est ça qui est central en réalité.
Il y a une autre mesure qui est très souvent demandée, c'est est-ce que vous allez maintenir le lien avec la famille pour l'enfant placé quand cette famille est réputée maltraitante? Est-ce qu'il faut garder ce lien ou pas, systématiquement?
Ah mais c'est pas une question à laquelle on répond par oui ou par non.
C'est toute la non mais dans le témoignage de Gauthier Nomelcure, il raconte qu'il a souffert de son rapprochement systématique avec sa mère.
Mais bien sûr,
il dit qu'il y a un systématisme.
Alors, c'est toute la complexité de l'aide sociale à l'enfance. Et les histoires de Gauthier, l'histoire de Gauthier, tout comme l'histoire d'autres enfants placés dont on entend beaucoup parler, qui ont fait l'objet notamment de documentaires sur le service public récemment, sont des histoires qui remontent à 10-15 ans. Où effectivement...
Ça a changé.
Où effectivement, le primat du maintien du lien biologique était l'idéologie, le mot est très fort, mais je l'utilise à dessein, dominante. Depuis, il y a notamment eu la loi de 2016, avec un outil qui s'appelle le projet pour l'enfant, qui replace au centre l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui à 200% que ces histoires n'arrivent pas, que parfois on ne sait pas le... Mais c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Et donc, quand la relation avec la famille, avec la famille est toxique et qu'il n'y a pas d'avenir dans le maintien de ce lien, aujourd'hui, il faut effectivement, et c'est ce qui est fait dans la grande majorité des cas, couper ce lien. C'est d'ailleurs pour ça que, par ailleurs, dans le cadre d'une autre loi qui est une loi sur l'adoption, on fait en sorte, mais là aussi dans le prolongement de la loi de 2016 de Laurence Rossignol, de favoriser l'adoptabilité, excusez-moi du terme, des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Parce que pour certains enfants, effectivement, ce n'est plus possible avec la famille biologique. Et il faut donc envisager une autre histoire, un autre parcours, une autre famille.
Est-ce que, via amendement par exemple à ce projet de loi, vous prévoirez quelque chose pour la sortie du dispositif après 18 ans? Est-ce que vous allez changer des choses de ce point de vue-là? C'est une demande récurrente. Là encore, le rapport insiste sur ce point.
Oui, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites hors de la loi. Je pense notamment aux étudiants. Ils sont trop peu à faire des études supérieures en sortant de l'aide sociale à l'enfance. Hein. C'est un vrai sujet en soi, ils ne sont que 6%. Hein.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà, à 18 ans, dispositif ne fonctionne plus. Ils sont tout seuls. Et souvent, ils finissent SDF. Enfin, 1 sur 4 finit SDF, ce qui est beaucoup.
Alors, un SDF né en France... Non, mais soyons précis, parce qu'il y a des chiffres qui tournent dans tous les sens. Un SDF né en France sur 4 est passé un moment par l'aide sociale à l'enfance.
Voilà.
C'est ça le vrai chiffre qui mériterait d'ailleurs d'être creusé et on va s'y atteler. Non, sur l'objectif qui est le nôtre, c'est il ne doit pas y avoir un seul gamin qui sorte dans l'aide sociale à l'enfance sans solution. Voilà. C'est assez clair. Et donc pour ça,
il y a des choses qui vont changer pour l'accompagnement après 18 ans.
Il y a déjà depuis la rentrée 2020, vous avez 2000 enfants qui font des études supérieures en sortie de l'aide sociale à l'enfance, qui ont un accès automatique à la bourse niveau 6 la plus élevée des bourses étudiantes, qui ont un accès automatique au logement étudiant. Dans le projet de loi, il est prévu que parce que vous êtes à l'aide sociale à l'enfance, vous avez un accès automatique à la garantie jeune, accompagnement intensif pour l'insertion professionnelle et un pécule de 600 euros par mois. Et puis, pour ceux qui sont en réelle difficulté, le prolongement, la généralisation de ce qu'on appelle le contrat jeune majeur, c'est-à-dire en gros, on prolonge la prise en charge. Voilà. On doit avoir un éventail de solutions pour répondre aux envies, aux parcours, aux besoins, aux profils, au moment aussi, hein, parce que c'est des enfants qui ont des parcours compliqués, parfois c'est pas le bon moment. Voilà. Et il faut avoir ce panel de solutions et c'est ce qu'on est en train de bâtir.
Donc vous mettez des moyens supplémentaires en plein débat budgétaire au Parlement. Est-ce que le budget de votre ministère va augmenter en 2022 et dans quelle proportion?
Moi j'ai un budget en fait.
Vous savez, combien?
Mais moi mon job, au-delà de mon budget, mais ça va avec, il est interministériel en fait. Il consiste depuis 3 ans à aller tirer la manche de mes petits camarades de gouvernement en leur disant hep. Faut
donc
pas
vous
n'avez
pas beaucoup de moyens
parce
pour
que vous
n'avez
pas de budget.
C'est pas que j'ai pas beaucoup de moyens. Si, il y a un budget propre, mais vous comprenez bien que l'enfance, mais tout comme le handicap, tout comme la cause des femmes, il y a eu les mêmes débats sur les questions sur les femmes, les violences conjugales. En fait, ce sont des politiques qui sont transversales. Donc moi, mon budget, il est un peu chez Véran, il est un peu chez Blanquer, il est dans tous les ministères. Voilà, donc je n'ai pas fait l'agrégat de l'ensemble de ces budgets, mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis, enfin davantage en tout cas, pour l'enfance en général, au-delà de la seule aide sociale à l'enfance. Pour l'aide sociale à l'enfance.
On n'a pas beaucoup de chiffres bruts en fait, on n'arrive pas à mesurer les moyens que le gouvernement est capable de mettre
en place. On comprend la difficulté mais si vous êtes obligé d'aller voir tous vos collègues pour dire voilà, j'ai tel projet.
C'est pas la difficulté, c'est la richesse. Et puis je suis désolé, depuis 3 ans. Je pense que d'une part, on n'a jamais autant fait pour protéger les enfants, et je ne parle pas que de la société enfance,
hein,
il y a d'autres sujets,
ah ben justement.
Et qu'on n'a pas autant parlé de l'enfance, et notamment un peu grâce à vous, et je vous en remercie.
L'enfance, au-delà de cette question des enfants placés, c'est cette campagne de sensibilisation aux violences éducatives, fessées, gifles, humiliations, vous avez peut-être vu les spots à la télévision depuis le début de ce mois de novembre. Cette campagne vise à faire connaître le numéro d'appel, le 119, pour signaler les enfants en danger. Est-ce que cette campagne a déjà un effet Adrien Taquet, sur ce numéro, sur le 119.
Alors, il y a beaucoup de campagnes là qui font la promotion d'un certain nombre d'associations dont je salue le travail, évidemment, contre les violences éducatives ordinaires, celles que vous évoquez, oui. Pour appeler à la vigilance. Je pense à une campagne qui est sortie hier de l'Enfant Bleu, appeler à la vigilance de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez le moindre doute sur le fait qu'un enfant puisse être victime, il faut effectivement appeler le 119, mais systématiquement, hein, et puis il y a une campagne gouvernementale, accessoirement, dès que vous faites une campagne sur le 119, et puis on fait une grande opération aussi avec la Ligue de football ce week-end, on va peut-être en parler, dès qu'il y a une campagne sur le 119, les appels au 119 augmente, mais parce que, et on l'avait vu pendant le confinement aussi, parce que c'est aussi notre vigilance est plus aiguë, plus pointue. Et il faut que ça soit pas juste quand il y a des campagnes. Mmh. Voilà, faut que un, la notoriété du 119 soit connue, c'est-à-dire faut que tous les Français connaissent, notamment les enfants, mais pas que, évidemment, aussi les voisins, etc. Redire que c'est anonyme, que c'est gratuit, que c'est 24/7, qu'il y a une écoute, et que dès qu'on a le moindre doute, qu'on pense qu'il y a un enfant qui est victime de violence, quelle qu'elle soit, hein, psychologique, physique, sexuelle, il faut appeler le 119. Et ne pas se dire, ah, je vais faire de la délation, pas avoir de culpabilité, etc. Il y a derrière au 119, il y a des professionnels. C'est eux qui vont savoir être en mesure d'évaluer la situation et de prendre la décision si cet enfant est en danger et s'il faut déclencher quelque chose ou pas. C'est pas à vous que repose sur vos épaules que repose cette responsabilité. Par contre, dans le doute, il faut appeler le 119.
Alors, il y a un autre gros dossier sur lequel on aimerait se pencher ce matin, c'est le harcèlement scolaire. Des annonces ont été faites hier par le président de la République. J'aimerais aborder vraiment un point très précis, c'est l'élève qui est victime de harcèlement scolaire. Est-ce que c'est nécessairement à lui de changer d'établissement? Ça peut paraître surprenant.
Non.
Vous le dites clairement.
Oui.
Et pourtant, c'est pas ce qui se passe.
Je peux pas être plus clair que ça. Mmh. Non, je sais que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas ce qui se passe et ce n'est pas normal.
Et donc vous dites que ce serait à l'élève harceleur ou aux élèves harceleurs de devoir...
Je pense que le ministre de l'Éducation nationale est d'accord avec moi et je pense que les consignes qui sont données, c'est effectivement qu'il n'y ait pas une forme de double peine et que ce soit effectivement les élèves harceleurs qui quittent l'établissement et que ce ne soit pas l'élève harcelé qui... quand même, et en plus à subir ce double peine de devoir changer de quartier, de copain, etc.
Exactement, c'est souvent la double peine. Donc vous nous dites que ça va bientôt changer.
Ah mais dans les pratiques, je pense que les consignes sont claires. Après, je peux pas porter garant en étant en plus pas ministre de l'Éducation nationale que non, mais dans chaque établissement et dans chaque cas, vous savez que c'est effectivement un fléau. 700 000 enfants qui sont victimes. Le gouvernement est très actif. C'est un sujet qui a été pris politiquement très tardivement. Moi, j'en étais même étonné quand je l'ai découvert. C'est-à-dire le premier plan contre le harcèlement, c'est sous Hollande. Et depuis 2017, le gouvernement et Jean-Michel Blanquer mènent des actions résolues là-dessus. Et il y a encore eu, vous l'avez dit, des annonces du président de la République hier pour mieux justement, je me permets d'appuyer sur d'autres points, mieux repérer et permettre que les dénonciations, les poursuites soient plus efficaces avec la création de cette appli là, hein, sur le 30-18 qui sera effectif dès février, là, qu'on pourra, voilà, un élève ou un témoin. Hein, parce qu'il y a un truc collectif aussi là-dessus. Hein, il faut arrêter d'être témoin passif de ces trucs-là. Hein,
tout le monde sait, personne, hein,
parce
ne
qu'on
dit
est
rien.
Un peu, on est un peu complices. Hein,
quand dans même, les témoins passifs, vous mettez les enseignants ou pas?
Je mets déjà les effets de bande, hein, quand même, les effets de groupe, pas de bande, de groupe.
Là, vous parlez des élèves.
Voilà, je parle des autres élèves, mmh. Ouais, qui laissent faire parfois, qui voient, ils voient.
Et donc les enseignants, hein. Est-ce qu'il faut qu'ils soient plus actifs?
Les enseignants, je pense que maintenant ils le sont. Je pense que la prise de conscience là, elle est collective, au sein de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, mais aussi les parents. et je le dis aussi en tant que ministre des Familles, où les parents ont aussi un rôle à jouer, parce que les parents, ils sont aussi au fait qu'il y a des faits de harcèlement dans la classe, hein, ils sont au courant, même si c'est pas leur enfant qui en est victime ou qui en est auteur, ils sont au courant. Voilà, donc toute la communauté éducative, je crois, a pris conscience et doit se mobiliser pour accompagner ses enfants.
Précisément, ministre des Familles, vous avez été interpellé cette semaine par une tribune, ouais. 80 parlementaires de droite qui déplorent le manque d'ambition de votre politique. On peut s'arrêter sur un point, pas assez de places de crèche créées. 30 000, c'était l'objectif. Sur les 5 ans, sur le quinquennat, il n'y en aura pas 30 000. Il parle aussi des assistantes maternelles, de leur faible revalorisation, des allocations. Que fait le gouvernement pour les familles? Est-ce que vous êtes en dessous de vos rendez-vous et de vos ambitions?
Vous savez, moi, quand je pense aux républicains et à la politique familiale, l'image qui me vient en tête, c'est celle d'un hamster qui tourne dans sa roue, là, depuis 30 ans. En fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas changé de logiciel. Voilà. Et c'est les mêmes idées qu'on entend depuis 30 ans.
Mais quand ils disent mais que non, les 30 000 places en crèche ne sont pas faites, ils ont raison.
C'est factuel.
Il n'y a pas que les 30 000 places en crèche. La politique familiale, ça ne se réduit pas à 30 000 places en crèche.
Bon. Exemple.
Tout comme ça ne se... Non, mais je vais vous répondre. Tout comme ça ne se réduit pas à est-ce qu'il faut monter ou baisser les allocs ou est-ce qu'il faut toucher le quotient familial. Bon. Parce que derrière tout ça, il y a la dénonciation de la part de ces gens des républicains
d'une baisse du taux de natalité.
C'est
une réalité aussi.
Mais oui.
Alors est-ce que c'est un enjeu de société ou pas?
Mais c'est une réalité. Mais soyons précis. C'est une réalité dans toute l'Europe. C'est une réalité aux États-Unis. C'est une réalité qui est bien moindre en France, qui est plutôt le meilleur élève en la matière que dans les autres pays. Et le taux de fécondité, c'est en France qu'il est le plus élevé dans tous les pays de l'OCDE. Bon.
C'est pas pour ça qu'il est bon.
Relativisons les choses. Il est à 1,83, mais vous voyez bien qu'on est plutôt bien mieux placé que les autres. Mais surtout derrière tout ça, il y a cette idée. Il y a cette idée que ce sont les allocations ou le quotient familial, etc., qui impacterait, qui jouerait sur le... Mais en fait, ça, c'est terminé. Moi, je défie ces 80 parlementaires de me montrer la moindre étude qui montre une corrélation entre ces sujets-là et l'évolution du taux de... Non, mais c'est important, Karine Bécart, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, parce qu'on m'entend assez peu sur ces sujets-là. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des enfants aujourd'hui? Ce qui fait qu'on fait des enfants aujourd'hui, c'est qu'un pays est en mesure, de créer les conditions d'accueil favorables à l'arrivée d'un enfant. Eh bien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec les 1000 jours. En créant des parcours 1000 jours, en accompagnant mieux les femmes avant, pendant et après l'accouchement.
Il y a une
notamment...
femme sur trois en France qui aimerait une famille avec trois enfants et qui dit on passe pas à ça parce que économiquement c'est pas possible.
Mais c'est pas que économiquement, c'est pas vrai, ce n'est pas qu'économiquement. C'est parce que on les accompagne insuffisamment pendant la maternité et notamment après l'accouchement où vous le savez très bien, il y a près de 20% des femmes qui souffrent de dépression postpartum. Oui, c'est vrai, les modes d'accueil ne sont pas suffisants, mais c'est pour ça qu'on est en train de bâtir un service public de la petite enfance pour pouvoir offrir à chaque famille et un mode de garde, notamment dans les grands centres urbains. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une politique d'universalité des services, mieux accompagner les parents face aux défis du numérique. On parlait tout à l'heure de harcèlement, mais on aurait pu parler de cyberharcèlement. Et dernière chose quand même, le deuxième pilier de cette politique familiale,
très vite,
je sais que c'est important.
Ça vous agace quand même comme sujet?
Pas du tout. Non, ça me passionne. Le deuxième pilier de notre politique familiale, et je sais que vos auditeurs y sont particulièrement attentifs, c'est que pour nous, la politique familiale, c'est une politique de lutte contre les inégalités de destin.
Merci.
Voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait pour les femmes seules.
Merci
voilà.
Adrien Taquet d'avoir été ce matin l'invité de France Inter, secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille. Merci, excellente journée à vous.
Merci à vous.